20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec Marc Minkowski que nous passerons un petit moment ce soir. Marc Minkowski qui lance la saison lyrique parisienne, celle du Théâtre des Champs-Élysées dès ce soir, et celle de l'Opéra Comique à la fin du mois, tandis que débute jeudi celle de l'Opéra de Bordeaux dont il est le directeur, bref, un chef qui vit une rentrée effervescente. Avant de le retrouver, jetons comme chaque jour un rapide coup d'œil sur les autres temps forts de l'actualité musicale. Le Festival de Saint-Denis, qui avait été annulé en raison de la crise sanitaire, proposera une édition exceptionnelle qui se déclinera sous la forme de 3 concerts les 17, 23 et 30 septembre dans la Basilique. Des programmes placés sous le signe du métissage, associant Angélique Kidjo à Alexandre Tarot, Julie Fuchs et Ibrahim Malouf, mais aussi la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary à l'Orchestre National d'Île-de-France dans un programme des plus swingants ou encore Youssou Ndour et ses amis. Ces différents concerts sont gratuits et destinés aux habitants du territoire comme aux fidèles spectateurs du festival sur inscription, et cela sur le site du Festival de Saint-Denis. Ambiance américaine à Metz pour la réouverture de la Cité musicale vendredi soir avec l'Orchestre national de Metz sous la direction de son chef David Ryland, mais aussi le pianiste Bertrand Chamaillou et le comédien Lambert Wilson dans un programme qui mettra à l'honneur Copland, Gershwin et Ravel, le concerto pour la main gauche de Ravel. Ce concert s'inscrit dans le cadre du cycle Made in USA qui célébrera donc la créativité américaine à travers la musique, mais aussi la danse. C'est la musique pour piano de Bizet que Nathanaël Gouin a choisi de célébrer dans son tout nouvel album sorti ces jours-ci chez Mirare, un répertoire peu connu, peu exploré en tout cas, mais dans lequel on retrouve le génie mélodique du compositeur d'opéra qui était en outre un excellent pianiste. Ayant grandi dans l'amour de l'opéra, il m'a toujours semblé évident que les mélodies de Bizet étaient par ailleurs des créations venues de ses doigts, confie Nathanaël Gouin, qui nous invite donc à nous plonger avec délices dans un univers qui s'apparente à celui de la romance sans parole, comme en témoigne notamment le merveilleux cycle des Chants du Rhin. L'un des Chants du Rhin de Bizet sous les doigts de Nathanaël Gouin, un extrait de ce bel album entièrement dédié à Bizet, que Nathanaël Gouin viendra d'ailleurs bientôt nous présenter dans le Journal du Classique.
Le Journal du Classique sur Radio Classique.
Ce soir, notre invité est donc Marc Minkowski. Marc Minkowski qui, en ce moment même, dirige la première représentation du Messie de Handel dans la version de Mozart et dans une mise en scène de Robert Wilson au Théâtre des Champs-Élysées. Trois représentations sont prévues jusqu'à samedi. Marc Minkowski retrouvera ensuite, à la fin du mois, une autre fosse, celle de l'Opéra Comique, où il dirigera le Bourgeois Gentilhomme de Lully dans la mise en scène pleine de fantaisie de Jérôme Deschamps. Et cela entre deux allers-retours à l'Opéra de Bordeaux, dont il est le directeur, opéra dont la nouvelle saison débute demain avec la Traviata sous la baguette de Paul Daniel. Alors je suis allée rencontrer Marc Minkowski la semaine dernière, entre deux répétitions au Théâtre des Champs-Élysées. S'il savoure le bonheur de retrouver les frissons de la fosse, il n'en demeure pas moins conscient de la fragilité d'un monde musical, alors que tant d'institutions lyriques sont encore muettes en ce moment dans le monde.
D'abord, c'est un mélange de bonheur, d'espérance, mais les braises sont toujours bien rouges. De ce que nous avons vécu depuis le mois de mars. Et tous les jours, on se demande quand même qu'est-ce qui va se passer le lendemain, quelles annonces vont être faites, quelles restrictions vont encore nous tomber dessus. On est quand même dans une espèce d'état de point d'interrogation permanent. Alors effectivement, quand on est sur scène, même avec les distances, on oublie quand même et on a presque l'impression que c'est un peu comme avant, qu'on a fait des concerts à Santander et Saint-Sébastien avec les musiciens Lou il y a une semaine avec Symphonie de Mozart et on avait un bonheur à se retrouver, ça faisait depuis le Messie à Salzbourg en janvier qu'on n'avait rien fait. Voilà, moi j'ai eu la chance finalement par rapport à beaucoup de mes jeunes collègues qui sont complètement arrêtés de diriger des événements à Bordeaux, dans les hôpitaux, pour la fête de la musique, pour le public, etc. avec des programmes courts. Puis là, maintenant, voilà, on est tous en train de redécouvrir ce que c'est aussi physiquement que de retrouver le concert pour des durées, voire même le théâtre et la fosse d'orchestre pour des durées conséquentes, ce que notre mental et notre physique n'a pas éprouvé depuis un bout de temps. Mais il y a beaucoup de bonheur quand même.
Alors ce Messie de Handel que vous dirigez en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées, Marc Minkowski, cette production vous l'avez créée au mois de janvier à Salzbourg, elle vient déjà de faire l'objet d'un DVD, un Messie mis en scène par Robert Wilson et un Messie revisité par Mozart. Pourquoi avoir choisi cette version de Mozart ?
C'est vraiment le Messie de Handel Mozart. C'est vraiment une œuvre jointe. Hein. C'est un produit de la Mozart Forum, festival que j'ai dirigé pendant 5 ans, et dans lequel Rolando Villazone m'a succédé. Tout est axé autour de Mozart ou de ses correspondances avec des compositeurs qu'il a connus. Effectivement, Mozart a reçu la commande de réorchestrer, de revisiter plusieurs œuvres de Handel par le baron von Swieten à Vienne. Assis et Galatée que j'avais déjà fait, Festin, Alexander Swift, Ode à Sainte-Cécile que j'avais également donné en concert. Et voilà, Rolando m'a dit « Marc, est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Mais j'ai jamais fait cette version, mais pourquoi pas, évidemment. Et est-ce que ça t'intéresse de travailler avec Bob Wilson ?» Je dis « Mais évidemment, ça fait des années qu'on se suit et c'est le moment ou jamais. » Voilà, c'est un spectacle plein de méditation, plein de symboles, plein de graphismes. C'est un oratorio mis en scène, donc ce n'est pas une pièce de théâtre, hein, ce sont vraiment des évocations. Est-ce que le Messie a besoin d'être mis en scène ? Non, mais pourquoi pas ? On a passé un moment merveilleux ensemble à Salzbourg, où nos univers se sont rejoints. Dans cette atmosphère, effectivement, très profonde, où il y a un contrepoint, une orchestration qui nous font penser à la Flûte enchantée, au Requiem par moment. Handel est bien là, mais il y a aussi une touche germanique très forte aussi, parce qu'il y a la traduction allemande qu'on a gardée, évidemment. Tout ça est passionnant.
Alors, vous dirigez ce Messie version Handel-Mozart au Théâtre des Champs-Élysées, Marc Minkowski. Et puis, vous venez d'enregistrer, l'enregistrement est paru cet été, la grande messe en ut mineur de Mozart. Est-ce que dans cette messe en ut mineur, on peut trouver aussi des références handeliennes, puisqu'elle correspond à cette période durant laquelle Mozart allait fouiner dans les manuscrits du baron von Swieten et notamment dans des manuscrits de Handel?
Évidemment. Et on pense au même au Handel jeune de Rome, au Dixit Dominus, aussi à Zadok the Priest. Il y a beaucoup de choses. C'est pour moi le chef-d'œuvre incontesté de la musique sacrée de Mozart. Un testament, un opéra sacré. Je l'avais déjà fait en concert avec des formes différentes. Mais ce qui m'intéressait, c'était de reconstituer imaginairement l'effectif que Mozart avait pu avoir dans la tête. On ne sait pas si l'œuvre a été créée de son vivant, ou partiellement, ou pas, c'est un grand mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la commande, c'est pour la Saint-Peterskirche de Salzbourg, dans une tribune d'orgue qu'on peut toujours visiter et admirer aujourd'hui, qui est très exiguë, et dans lequel on ne devait pas avoir la place de mettre plus de 20, 25 interprètes au maximum. Donc, c'est définitivement beaucoup moins que les grandes masses chorales, avec tout le respect que je leur dois, qu'on a entendu dans ces œuvres pendant très longtemps. Là, on l'a fait vraiment avec deux chanteurs par partie, avec une atmosphère, quelquefois comme dans un grand final d'Ada Ponte, avec des chanteurs qui sortent du chœur pour chanter des solos, des doubles chœurs qui se retrouvent à être de doubles quatuors, un orchestre réduit et très articulé, et très cinglant et très soyeux aussi quand il faut pour le Et Incarnatus Est, par exemple. C'était un moment très magique, donc quand on a fait la tournée l'année dernière et qu'on a enregistré ceci à Grenoble, c'est une œuvre qui me tient plus à cœur que tout. Enfin, j'aime tout, de toute façon, on me demande toujours qu'est-ce que vous préférez, j'aime tout, mais peut-être chez Mozart, c'est vraiment l'œuvre, je trouve, qui est la plus parfaite, sensible, émouvante, même si la construction du credo, du Gloria à la fin, est un point d'interrogation.
Thank you.
On découvre donc, Marc Minkowski, votre enregistrement de cette grande messe en ut mineur de Mozart avec vos musiciens du Louvre. Vous dirigez le Messie de Handel et de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis vous allez enchaîner avec une autre fosse, celle de l'Opéra Comique, que vous connaissez bien également, où vous reprendrez cette production du bourgeois gentilhomme de Lully, mise en scène par Jérôme Deschamps. C'est un plaisir de retrouver cette production pleine de fantaisie. On va changer d'ambiance, d'atmosphère, hein.
Oui, c'est un plaisir parce que je suis un acteur qui a bifurqué. J'avais envie d'être acteur quand j'étais à l'école, j'habitais en face de la Comédie Française. Ça m'est arrivé d'aller voir des pièces quand j'étais en cinquième, en sixième, avec des copains de classe, dont un certain Manuel Valls, qui me l'a rappelé récemment. Voilà, toute mon enfance c'est passé avec Molière. Donc, Lully m'a fait démarrer en 87, démarrer dans le monde discographique. Et quel plaisir, des années après, de me retrouver à faire ce bourgeois en entier avec Jérôme, avec qui j'ai fait plusieurs spectacles, avec qui on a une longue complicité. Et puis quel plaisir de le voir aussi dans ce rôle qui est fait sur mesure pour lui, avec ce spectacle extrêmement bon enfant et très franc et très beau et très drôle aussi, évidemment, avec cette rythmique que Lully et Molière ont trouvé. C'est l'ancêtre de la comédie musicale, en fait. Toutes les plages musicales vont vers la pièce de théâtre et toutes les scènes de la pièce de théâtre vont vers des divertissements jusqu'au point culminant qui est cette fameuse cérémonie turque. C'est un bonheur fou. En plus, on a un orchestre avec des académiciens. Les jeunes ont beaucoup besoin d'aide en ce moment. Il y a beaucoup d'interprètes avec cette crise qui ne redémarre pas ou qui redémarre très 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 lentement. J'ai d'ailleurs même accepté de participer à un projet avec Barbara Hannigan d'aide aux jeunes artistes pour qu'ils puissent faire des premières parties dans des concerts pour retrouver un relancement de leur activité. Puis alors, au milieu de tout ça, effectivement, je suis aussi par la pensée et par la présence, j'en arrive à l'instant, avec mes collègues de Bordeaux, où il y a une magnifique Traviata dont j'attends beaucoup, avec un double cast, avec notre directeur musical Paul Daniel, avec Rachel Willis-Sorensen, prise de rôle, Benjamin Bernheim, Benita Takashitazi, Kevin Amiel, Lionel Lott. On a changé de lieu parce que notre auditorium est plus adapté au contexte que nous avons en ce moment pour être un peu tranquille, distancié. Et je savoure la chance que nous avons par rapport à nos collègues américains ou anglais qui sont encore dans un brouillard de planning total.
Che disse vivere, io voglio a te fedele, dell'universo immemore, io vivo quasi in ciel, dal di che disse vivere, io voglio a te fedele. quasi in ciel. Io vivo in ciel dell'universo in memore. Io vivo quasi in ciel. Vivo quasi in cielo. Io vivo quasi in cielo.
Benjamin Bernheim sera donc à l'affiche de cette Traviata de Verdi qui ouvrira la saison lyrique bordelaise dès le 17 septembre. Benjamin Bernheim qui reprendra le rôle d'Alfredo, où il fait merveille, dont un air figure d'ailleurs au programme de son magnifique album paru la saison dernière. C'est Paul Daniel qui sera dans la fosse de l'Auditorium de Bordeaux, jusqu'au 27 septembre pour cette toute nouvelle production mise en scène par Pierre Rambert. Une saison, la saison bordelaise, au sein de laquelle figureront deux nouvelles productions, une opérette d'Hervé, Falstaff de Verdi, mise en scène par Laurent Pelly. Vous reprendrez également le Péléas et Mélisande que vous aviez créé à Bordeaux. Et il y aura également Carmen que vous viendrez diriger, Marc Minkowski. Cela fait combien de temps que vous n'avez pas dirigé Carmen ?
Ça fait fort longtemps. Ouais. J'ai fait une production au Châtelet. Ça fait très très longtemps. C'est aussi une de mes œuvres de chevet. Et en plus, ça va être la première fois que je travaille avec Jean-François Civadier, que j'admire beaucoup. Et une très belle production qui n'a été vue qu'à Lille et qu'il faut absolument revoir, voir.
En tant que directeur d'opéra de l'Opéra National de Bordeaux, face à toutes ces exigences sanitaires, face à toutes ces incertitudes quant à la venue d'artistes internationaux, quant à la circulation des musiciens, est-ce un défi en ce moment de gérer une ouverture de saison, même si, comme vous le soulignez, c'est une chance de pouvoir ouvrir son théâtre, ce n'est pas le cas de tous?
C'est un peu un défi, oui. Mais l'envie, l'attente du public et des interprètes est trop forte pour qu'elle soit contenue. Nous avons une ministre de la Culture qui est avec nous. C'est pas seulement parce qu'elle aime l'opéra que nous sommes rassurés, mais on peut avoir des problèmes et on sait que notre cas est vraiment suivi et observé. Et on essaie de garder la tête froide face au courant catastrophiste, paranoïaque, voire hystérique, voire délirant, que certaines personnes qui ne sont même pas des médecins essayent d'imposer à tout le monde en permanence. Mais qu'importe, il faut garder espoir et faire appel à la responsabilité de chacun et arriver à trouver un moyen de vivre avec ça, comme au début du XXe siècle, ça a été le cas pour des milliards d'êtres humains qui ont vécu à côté de la grippe espagnole, d'autres choses, et qui ont continué à créer. Espérons que ça soit toujours le cas aujourd'hui.
Nous l'espérons tous. Votre rentrée, elle est riche en France, à Paris, à Bordeaux. Et sur le plan international, Marc Minkowski, vous avez des projets aussi sur l'international. Est-ce que vous avez une vision sur ces projets ?
Alors la vision, dès qu'on va quelque part, c'est savoir comment on va passer la quarantaine et nani et nania. Mais effectivement, nous sommes invités à l'opéra, au Staatsoper de Berlin, avec les musiciens de Louvre, pour faire une production de Mithridate en novembre, avec Satoshi Miyagi, merveilleux metteur en scène. Ça sera ma première collaboration avec lui. Quel plaisir ou quelle tension, peut-être aussi pour moi, quelle émotion de retrouver l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans les créatures de Prométhée de Beethoven, orchestre que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Et voilà, il y a des projets avec le Japon aussi, qui sont un petit peu en report pour le moment, parce que j'ai un titre avec l'orchestre de Kanazawa, donc nous faisons plusieurs programmes par an. Nous avons une intégrale des symphonies de Beethoven, donc on devait la commencer en octobre, on va encore attendre un peu, j'espère que ça va redémarrer en février. Voilà, il y a quelques projets avec les États-Unis aussi, il y a des projets de coproduction avec l'Opéra de Bordeaux et plein de maisons internationales qui sont toujours d'actualité. Une grosse déception, c'est que notre Messie qu'on a créé à la Semaine Mozart de Salzbourg, repris maintenant à Genève dans un mois, ce Messie aussi au Théâtre des Champs-Élysées devait aussi se faire avec la reprise au Festival d'été de Salzbourg qui l'avait décalé à l'année prochaine, puisque cet été ils ont fait quelque chose de très réduit. Bon, bah apparemment ça ne se fera pas, j'espère que c'est temporaire. J'espère que les organisateurs de spectacles de par le monde ne veulent pas se servir de cette crise pour annuler des choses. Il y a des engagements moraux qui sont importants. Nous, à Bordeaux, tout ce qu'on a dû arrêter pendant ces mois de crise, on les a, ce sont des productions qu'on a reportées dans un an, deux ans, trois mois, six mois. Les chanteurs qui souffrent beaucoup ont accepté des reports pour le versement de leur cachet, vraiment avec beaucoup de courage, et parce qu'effectivement ils savent bien que nous perdons beaucoup d'argent aussi en tant qu'organisateurs. Nous avons aussi trouvé un moyen de payer nos intermittents. Il y a très peu de pays qui font ça. Donc voilà, j'espère que le monde international culturel garde aussi la franchise, le respect, la parole finalement que nous avons ici.
Et puis on espère que la vie lyrique reprendra au plus fort, le plus rapidement possible. Merci beaucoup Marc Minkowski.
Merci.
Quelques notes de la célèbre marche pour la cérémonie des Turcs de Lully par Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre. Marc Minkowski, que vous retrouverez donc dans la fosse du Théâtre des Champs-Élysées pour le Messie de Handel, version Mozart, et mise en scène par Robert Wilson, c'est jusqu'à samedi. Production qui sera reprise ensuite les 4 et 5 octobre à l'Opéra de Genève. À suivre du 28 septembre au 8 octobre, Le Bourgeois Gentilhomme de Lully, dans la production mise en scène de Jérôme Deschamps, et ce sera à l'Opéra Comique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous évoquerons la reprise de la saison lyrique toulousaine en compagnie de la chef Speranza Scapucci. Merci à Robin Rieuvernet qui réalisait cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.